Alors, ce matin, on va regarder dans la lettre de Paul aux Galates. Mais en préparant cela, de plus en plus, je suis revenu à un passage que je connaissais dans Proverbes, et c'est un point de départ en étudiant la lettre de Paul aux Galates. Parce que dans Proverbes, chapitre 6, verset 16, vous savez ce qu'il dit? Il dit, il y a six choses que l'Éternel déteste. Dans l'ancienne seconde, il dit, six choses que l'Éternel hait. Et même sept dont il a horreur. Alors, sept choses que l'Éternel n'aime pas. Même c'est fort, hein? Il a horreur de cela. Alors, qu'est-ce que c'est? Numéro un, les yeux hautains. On peut traduire cela par l'orgueil. Il n'aime pas. Il n'aime pas l'orgueil. Deuxième chose, la langue menteuse. Donc, il n'aime pas les mensonges. Troisième, les mains qui versent le sang innocent. On pense à tous ces innocents dans les guerres qui sont tués, etc. Mais je pense aussi, parce que je trouve que le bébé dans le sein de sa mère est sain et déjà vivant, que l'avortement tombe dans cela. Dieu n'aime pas que quelqu'un tue ses innocents. Quatrième, le cœur qui médite des projets injustes. Il y a toutes sortes de domaines de cela, soit dans le monde, parfois même dans l'Église. Les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Ils ne cherchent pas le bien, ils cherchent le mal, par leur manière de vivre, leur style de vie, ou même leurs ambitions. Ça, c'est le cinquième. Sixième, le faux témoin qui dit des mensonges. Et je pense à cela quand j'entends le mot « calomnie ». C'est les personnes qui essayent de détruire la réputation de quelqu'un par des mensonges. Le témoignage qui est mensonger. Septième. Qu'est-ce que c'est le septième? Qu'est-ce que vous pensez? Quelques-uns sont en train de regarder. Mais sept, bon, c'est la fin, hein? Et Dieu déteste le septième. Le septième est celui qui provoque des conflits entre les frères. C'est un peu inentendu, n'est-ce pas? Avec tous ces autres. Mais celui qui provoque des conflits entre les frères. Alors, on revient à Galates, parce que c'est justement aux Galates que Paul attaque ce problème de conflit entre les frères. Il y a deux ou trois raisons que je cherche ces passages, ça fait partie, mais il y a un autre au début. Galates, il faut me suivre maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais jusqu'au mois écart, probablement. Donc, avec cela, si on regarde Galates, une chose qui est remarquable, Paul ne commence pas comme les autres lettres. Paul semble même un peu fâché. Et il y a une salutation, mais d'habitude, il recommande quelque chose avec l'Église à laquelle il écrit. Ou il dit, « Je prie tous les jours pour vous, etc. » Mais on n'a pas cela ici. Il entre tout de suite dans son sujet. Mais il ne faut pas oublier, et ça, c'est important aussi. Paul a eu toujours le Christ au centre de ses pensées. Même dans une lettre, on peut dire, dure, il revient toujours que, mais Christ est là, il est le centre de mes pensées et de ma manière de vivre. Donc, on n'oublie pas cela. Il dit cela déjà ici au début. Il dit, notre Père est du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il dit cela au début, et tout de suite il entre dans le sujet. Parce que lui, il est concerné, il dit inquiète, pour les personnes qui enseignent un autre évangile. Regardez ce qu'il dit. Il y a ceux qui vous troublent. C'est dans le verset 7. Ceux qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Et ces mots qui sont durs quand il continue. Mais nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il aille en enfer. C'est un peu fort. Et jusqu'au point, il le répète, comme il a déjà dit, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce n'est pas très souvent qu'on répète exactement les mêmes choses, un moment jusqu'après l'autre. Paul dit cela dans Philippiens, réjouissez-vous, et je dis de nouveau, réjouissez-vous. Je crois que c'est le seul moment que je sais qu'il répète la pensée qu'il a. Et ici, il est très inquiet pour ceux qui viennent pour troubler les églises de Galate. On pense que nous sommes dans la région de Antioche, de Pisidie, de Lystre, de Iconium. Dans cette région de la Galate, où il est allé, on ne sait pas si c'est après la première mission de Paul dans cette région ou après la deuxième mission, mais l'important c'est qu'il y avait des gens qui sont venus pour le suivre, pour essayer de détruire son travail. Et ces gens sont venus parmi les Galates et il semble que les Galates sont en train de les écouter. Et Paul revient avec cette lettre. Écoutez, c'est pas comme cela qu'il faut faire. Que ces gens-là qui enseignent un autre évangile, qu'ils soient anathèmes. Maudits, ces gens-là. Si Paul a écrit cette lettre, il a donné à quelqu'un pour donner une évaluation avant de l'envoyer. Je pense que personne n'a dit, non, je ne crois pas, Paul, il faut envoyer cette lettre. Une lettre si dure. Mais il a fait quand même. Et c'est nous l'avons reçu. Alors, suivez avec moi. Il dit, est-ce que j'envoie cette lettre pour faire plaisir aux hommes? Bien sûr que non. Il veut faire plaisir à Dieu et il envoie la lettre. Donc, il y a des moments quand il faut être dur avec ce qu'on dit, disons. Et je vais montrer dans un moment son attitude, Paul. L'attitude de Paul quand il dit cela. Mais il continue toujours dans chapitre 1. Donc, chapitre 1 et 2, c'est personnel. Sa manière personnelle de présenter le problème. Chapitre 3 et 4, c'est doctrinal. Il voit ici, on peut dire, la base théologique de ce qu'il dit. Et versets 5 et 6, c'est pratique, l'application de cela. Mais il dit, ça ne vient pas de moi. Et aussi, il va prouver, ça ne vient pas des apôtres non plus. Ça vient, il dit, par une révélation de Jésus-Christ. Ce que Paul a enseigné est quelque chose qui est venu directement du Seigneur par le Saint-Esprit. Donc, il dit dans le passé, j'étais très zélé. Donc, c'est bien d'être zélé, mais lui, il était zélé pour tous les chrétiens. Et il y avait un changement. Et il y avait une conversion, il a dit, pas tout de suite que j'ai parlé avec les autres apôtres. Il dit en fait, 3 ans plus tard, nous sommes à verset 18 maintenant. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem, et voilà une chose fantastique pour moi. Il n'est pas venu vers l'église à Jérusalem, il dit que je suis venu et je suis resté dans la maison de Pierre. 2 semaines. Imaginez cela, d'avoir l'occasion d'aller chez Pierre, et ça veut dire que Pierre a eu une maison à Jérusalem, d'aller à Jérusalem, rester 2 semaines avec Pierre. Il n'a pas vu d'autres personnes. Il ajoute, il a vu Jacques. Et je peux imaginer que Jacques et Pierre étaient ensemble assez souvent, eux. Mais il n'a pas vu d'autres personnes. Et même, il dit plus tard, les églises de Judée ne connaissaient pas mon visage. Il est rentré chez lui, plus ou moins, dans la région de Tarse. Et il dit ici dans le texte, nous sommes dans chapitre 2 maintenant, ensuite, 14 ans plus tard, je suis revenu à Jérusalem avec Barnabas, parce qu'il était déjà avec Barnabas à Antioche. Et il avait aussi Tite avec lui. Tite était un païen, c'est-à-dire il n'est pas un juif, mais il avait Tite avec lui. Et il dit, par suite d'une révélation, il s'est présenté devant l'Église à Jérusalem après 14 ans. Il n'y avait pas de contact. Mais là, il a exposé ce qu'il enseignait, lui. Et il a dit, eux, il nous a donné la main droite de communion. La main droite de communion. Il y avait le Saint-Baiser, je sais, à l'époque. Mais il semble un geste spécial était de serrer la main. Mais quand on fait cela, c'était un serrer la main de communion. Et ça veut dire, quand il a exposé son évangile, il n'y a pas de problème avec les apôtres et l'Église à Jérusalem non plus, parce qu'ils ont accepté sa manière de présenter l'évangile. Il était d'accord. Il n'y a pas de division entre les apôtres et Paul dans la présentation de l'Évangile. Mais en Galate, oui, parce qu'il y avait des gens qui troublent l'Église en présentant un autre Évangile. Donc, par la suite de cela, il dit qu'il y avait des problèmes qui sont venus de ses frères, on dit les judaïsants, les frères juifs, qui voulaient remettre le peuple sous l'ancienne loi. Et Paul dit à ce moment-là, il n'a pas même cédé un seul instant à leurs prétentions. Et ça devient le problème qui a suivi Paul tout au long. Et je vais ajouter à ceci. Galates, la lettre qu'on voit ici, est seulement une lettre parmi plusieurs où Paul est en train de lutter avec le même problème, la division dans l'Église à cause de fausses doctrines. Romains, 1 Corinthiens surtout, 2 Corinthiens, Éphésiens, même Philippiens. Il avait des sœurs qui devraient être corrigées, etc. Donc il semble que c'était un grand souci que l'Église reste unie. Et dans Éphésiens chapitre 4, il y a ce grand passage concernant le fait Dieu a donné les dons à l'Église pour que par l'Esprit nous restions unis, en communion les uns avec les autres. Donc, il continue cela en disant que lui et Barnabas, et il dit qu'il n'a pas exigé, et c'est important, que Tite soit circoncis. Okay? Les Juifs à Jérusalem avec les apôtres n'ont pas exigé que Tite soit circoncis. Mais cette idée est partie de Jérusalem pour aller dans les autres régions où Paul est allé. Et ils ont changé l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. Mais il y a des gens qui sont venus pour remettre les gens sous l'esclavage de l'ancien système. Et il parle de ces deux alliances dans cette lettre. Et sous cette ancienne alliance, il y avait une certaine exigence qui était la circoncision. Il voulait imposer sur les nouveaux chrétiens. Et Paul est venu, vous êtes en train d'écouter un autre évangile. L'évangile pour Paul était lié avec la crucifixion de Jésus. Lui, il était crucifié avec Christ. Et quand cet évangile qui est une bonne nouvelle est lié avec la croix, c'est une bonne nouvelle. Mais quand il change cela et on oublie la croix en disant, voilà, c'est cela qu'il faut faire pour être sauvé, on est en train de prêcher un autre évangile. Alors, toujours ici dans chapitre 2, il est toujours en train de parler de ces choses personnelles. Et vous savez, parfois, il faut confronter les frères. Et Paul devrait, et ça c'est vraiment quelque chose presque incroyable, il devrait confronter Pierre. Pierre est tombé sous l'influence de ces judaïsants. Et avec cela, il s'est retiré à Antioche des frères païens pour rester simplement avec les frères judaïsants. Et même, il dit, Barnabas était attiré par cela. Donc, c'est vraiment une situation difficile à concevoir que même Pierre était influencé par cette pensée, il faut revenir sous l'ancienne alliance. Mais il a dit, j'ai résisté Pierre, et on peut dire Barnabas en même temps, face à face en public. Il y a des moments quand il faut faire cela. Mais ensuite il dit, et nous sommes à la fin de chapitre 2, je suis crucifié, c'est verset 20, je suis crucifié avec Christ, et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, à la fin de cette discussion assez difficile et dure, Paul fait le rappel. On n'oublie pas Jésus dans tout cela. Donc, lui, quand même, Jésus est sa vie. Maintenant, il change dans la partie, on peut dire, doctrinale, chapitre 3. Il dit, « Aux Galates, insensé. J'arrive ici, ô membre de l'Église à Genève, vous êtes insensé, vous êtes fou. Mais il voulait qu'il accepte une idée. Donc il continue avec cet esprit quand il dit, est-ce qu'en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant la foi, avec foi? Et voici quelque chose qu'il dit, intéressant. Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Et il dit après cela, vous êtes en train de perdre la grâce. C'est possible de perdre la grâce, Paul dit, si vous retournez sous l'ancienne alliance ou la loi, et on verra pourquoi c'est si mauvais d'aller dans cette direction. Mais il dit, celui qui vous accorde l'esprit. La bonne nouvelle est le moment quand nous sommes sauvés par le sang de Christ, par le pardon de péché, et quand on reçoit le Saint-Esprit. Et Paul revient, c'est presque un langage baptismal qu'il utilise plusieurs fois, crucifié avec le Christ. Le fait de recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, verset 7, « Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Vous savez, les judaïsants voulaient faire une distinction entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens. Mais Paul dit, ce n'est pas cela le critère. Le critère, est-ce que nous marchons par la foi d'Abraham? Et c'est les personnes-là qui le font, qui sont les fils d'Abraham, qui sont le vrai juif. Et il dit à la fin, dans chapitre 6, il appelle l'Église Israël de Dieu. C'est l'Église qui est Israël. Il n'y a pas un Israël de la chair aujourd'hui qui a des promesses spéciales. Nous sommes l'Israël de Dieu. Il dit ici dans Galates. Et c'est grâce à cette foi que nous avons, qui est la même foi qu'Abraham a eue, le juste marchera par la foi. Toujours chapitre 3, il explique ce qui est la loi. Il dit verset 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, donc singulier, la descendance à qui la promesse avait été faite. Et il dit, nous sommes maintenant au verset 22, il dit, afin que la promesse soit donnée par la foi, on peut dire, de Jésus. Il y a une question là, mais en fait, on pense que c'est plutôt mieux de dire la foi de Jésus à ceux qui croient. Ainsi, et c'est verset 24, ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant, il faut suivre la suite, c'est très important. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Quel est le précepteur, la préparation, ce qui était le pédagogue pour amener le peuple vers Christ? C'était la loi, c'était l'ancienne alliance, on peut dire l'Ancien Testament. Donc, avec cela, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Maintenant, cette foi en Christ est une foi qui est vivante. Il y a de vie dans cette foi. Et il ajoute, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On remarque le pluriel, vous tous, donc tous les membres de ces églises aux Galates. C'était quelque chose comme norme d'être baptisé. Mais regardez bien ce qui se passait. Je suis venu devant vous avec mon complet. Ce n'est pas très convenable, mais c'est attendu chez les hommes. Alors, j'ai mis le mur complet que j'ai. Mais ce n'est pas complet, c'est complet. Parce qu'il y a quelque chose qui est ajouté dans ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été baptisés en Christ Jésus. Vous avez revêtu Christ. Alors, j'enlève cela parce que ça, c'est l'ancien habillement. Et je remets cela. Maintenant, je commence une autre sorte de vie et je suis habillé autrement. Et vous remarquez, mon nom est là, hein? Sur cette robe. Et avec cela, maintenant, quand Dieu me voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sang de Christ. Il voit que je suis habillé avec Christ. Et si je suis habillé avec Christ, ça veut dire que je suis chrétien. Je suis comme Christ. Et quand Dieu me voit, il voit le vêtement de Christ, qui est possible par la croix. Et quand le sang de Christ lave mon robe, c'est pur, c'est blanc, et mon nom est dessus. Alors, c'est cette sorte de distinction que Paul essaie de faire ici avec ce passage, et je ne veux pas remettre mon test. Et la distinction maintenant continue. Il est arrivé ici, on peut dire, au point de sommet de sa présentation doctrinale. Il dit la distinction avec le pédagogue, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la loi. Et maintenant, il y a une distinction qui se fait par le fait qu'on a mis l'ancien habillement, qui était l'habillement de la chair, et on a remis l'habillement qui est Christ. Et il dit, vous êtes les enfants de Dieu par la foi, vous qui êtes baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. La foi qui sauve, l'évangile qui sauve, la bonne nouvelle est que l'ancienne personne, c'est fini. Et maintenant, nous avons quelqu'un qui est nouveau. Et cette nouveauté est quelque chose accompli par le Christ. Et il vient de dire, n'est-ce pas, je suis crucifié avec Christ. Il est mort avec Christ. Et Paul a expliqué cela dans Romains chapitre 6. Quand je suis baptisé, je suis mort avec Christ. Quand je suis baptisé, je suis enterré avec Christ. Quand je suis baptisé, je suis ressuscité avec lui. Donc après, quand quelqu'un me voit, spirituellement, il devrait voir d'où qui avec le vêtement de Christ. Et ça devrait rester pur, sans mettre les taches, et ça devrait être éternel. C'est-à-dire, il ne faut pas l'enlever, parce que ça, c'est possible, et ça, c'est de perdre la grâce. Il continue ici, parce qu'on est à la fin de chapitre 3. Il dit, « Et si vous êtes à Christ, verset 29, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Tout était dans l'ancienne alliance avec Christ au centre, dans l'ancienne alliance aussi, mais qui a visé la venue et la mort et la résurrection de Christ. Maintenant, il y a une réalité. C'est fait. Vous êtes maintenant, grâce à tout cela, les héritiers de la promesse faite il y a longtemps à Abraham, que toutes les nations seront bénies en cette descendance singulière en Christ. On commence chapitre 4. On peut dire que nous sommes maintenant en train de chercher Paul. Avec tout cela, quelle est la solution? Voilà, on voit le problème. On est en train de changer l'évangile. Voilà, Paul, on voit que vous avez un souci, que ça amène une rupture, une division. Alors, quelle est la solution à cela, Paul? Et il commence à parler de cela. Alors, nous sommes à verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». On peut dire que c'est vraiment le point que Paul donne pour unifier l'Église des Galates. Parce que maintenant, si c'est vrai, vous êtes passé à la famille de Dieu, fils de Dieu, ça veut dire que vous avez l'Esprit de Christ en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, Paul dit en Romains 8, on n'appartient pas à Christ. Mais vous avez l'Esprit. Cela est venu au moment de cette transition, quand vous avez revêtu Christ. Et par ce fait-là, avec le Saint-Esprit maintenant, nous sommes liés. Parce que si Dieu est notre Père, nous disons Abba Père par l'Esprit en nous. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes une famille. Et vous savez, le plus qu'on vise vers le centre, on peut dire une roue avec les rails, le plus qu'on vit vers le noyau, oui, le plus qu'on va vers ce centre qui est le Christ, et nous sommes là dans la vie, chacun un peu différent avec les chapitres de la vie différents, mais nous sommes en train de nous amener vers le centre. Qu'est-ce que se passe? Nous sommes plus près des uns des autres. C'est une conséquence qu'on vise le centre, mais si on passe par ces rayons, le plus que nous sommes vers le Christ, le plus que nous sommes liés les uns avec les autres. Paul dit le secret, c'est l'Esprit qui est en vous. Si le Saint-Esprit est en nous, il n'y a pas une place pour la division. Il explique cela, c'est plus clair quand il continue. Nous sommes maintenant à verset 10. J'aimerais simplement mentionner cela. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Ah oui, il est là. Vous savez, nous avons, c'est-à-dire les Juifs ont des jours. La Pâque, Pentecôte. Ils ont observé toutes sortes de jours comme quelque chose de spécial. Nous n'avons pas cela. Nous avons une autre sorte de jour où on honore les uns les autres. Et ça, c'est les anniversaires, comme aujourd'hui pour Emmanuel. C'est aujourd'hui anniversaire de quelqu'un et on l'honore. Mais au niveau religieux, nous n'avons plus ces fêtes qui faisaient partie de l'ancienne alliance. Donc il dit, verset 12, « Soyez comme moi. » Maintenant, c'est moi, Paul. Il a respecté la loi. Il a dit la loi vient de Dieu. Mais c'était un pédagogue pour vous amener à Christ. Et moi, je suis venu à Christ après d'être zélé pour la loi. Mais vous, vous êtes en train de retomber sur cet ancien système que j'ai quitté. Soyez comme moi. Quitte ce système-là. Quittez ce système pour vivre en Christ par l'Esprit. Alors, le verset 16. Je vous dis les choses assez dures. Okay? Attention. Je ne suis pas votre ennemi. Si je dis les choses dures, je ne suis pas votre ennemi. Il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Paul ne voulait pas être éloigné de ses frères et ses sœurs aux Galates. Plutôt le contraire. Mais il fallait dire les choses qui étaient difficiles. Et il a appelé ces personnes-là les insensés. Parce qu'il y avait des choses qui se sont passées. Si on continue dans chapitre 4, il explique quelque chose qui montre le changement qui a eu lieu. Parce que il y a le processus de l'ancienne alliance, il appelle cela un esclavage. Il dit, si vous suivez ces anciens principes de la loi, vous êtes les fils de Agar. Maintenant, Agar était l'esclave de Sarah et Abraham. Et Ishmaël est venu de Agar. Il dit, si vous suivez ces anciens systèmes, vous êtes le fils de Agar. Mais notre mère, à nous, c'est la Jérusalem nouvelle. Donc il dit à la fin, c'est le verset 31, « Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » De la femme libre. Donc nous faisons partie de cette Jérusalem nouvelle, ou on peut dire la cité céleste, qui n'est pas liée à ce qui se passe à Jérusalem dans le temple. Ça, c'est fini. Jésus a dit à cette femme samaritaine, « Ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, on va adorer Dieu, le vrai adorateur qui va le faire en vérité et en esprit. » C'est cela que Dieu accepte, et c'est cela que nous essayons de faire. Chapitre 5, c'est pour la liberté que Dieu nous a libérés. Dieu n'a pas nous libérés pour faire le mal, pour faire ce que nous voulons. Ce n'est pas cette liberté-là, pour faire l'immoralité, pour faire les choses qui impliquent le mensonge, non. Il nous a libérés de quatre choses, je peux mentionner, et vous pouvez ajouter à cela peut-être. Il nous a libérés du péché, le pardon. Il nous a libérés de la loi de Moïse, ou les œuvres par le salut par les œuvres. Ça c'est un grand piège pour nous, de penser qu'on peut gagner notre salut. Nous sommes libérés de cela. Nous sommes libérés, troisièmement, de la condamnation. Parce que Dieu nous accepte maintenant, comme ses enfants. Et avec cela, on peut ajouter, nous sommes libérés de la peur. La peur implique un rejet. Mais nous ne sommes pas rejetés. Nous sommes acceptés comme les enfants de Dieu. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. On peut avoir la grâce. On peut profiter de la grâce. Mais on peut être déchu de la grâce si on tourne en arrière en quittant le Christ. Ensuite, verset 6, il parle de cette foi qui est agissante par l'amour On va parler de cela. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir la vérité? Il n'a pas dit de croire la vérité. Ce n'est pas cela la fin de cette séquence. Il faut croire. Et par la foi, nous faisons quelque chose. Donc, qui vous a arrêté d'obéir la vérité? Et il revient un peu sur son thème. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. On peut avoir les petites fissures dans l'Église. On peut avoir ces fissures. Ou un peu de levain pour, par la tour, complètement envahir toute la pâte. Et nous savons ce principe. Un petit peu ici crée des grandes conséquences. Donc, Paul est en train, coupons cela, disons, au pied du problème. Et voilà, il va expliquer maintenant comment le faire. Il dit, à partir, je lis la phrase, c'est verset 10, « Mais celui qui vous trouble, » donc il y avait quelqu'un là qui était en train de troubler ce qui était le corps de Christ, il parle par la suite, « Frère, vous avez été appelés à la liberté. » Mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Nous sommes en train de voir la solution. Mais il dit, l'avertissement revient, verset 15, « Mais si vous mordez et si vous dévorez les uns les autres, prenez garde, ne pas être détruits les uns par les autres. » La fin de créer cette division, ces conflits, d'après ce qu'on a vu dans Proverbe, que Dieu n'aime pas du tout. Il déteste cela. Il dit la fin, en fait, celui qui le fait, lui-même, est détruit. Donc, attention, Paul dit ici. Verset 16. Je dis donc, en vue de tout ce que j'ai dit, voilà ce que je vais conclure. Je dis donc, et il y a trois choses, il dit dans ce passage qui suit, il dit marcher par l'Esprit. J'ai dit tout à l'heure, la solution est par l'Esprit qui habite en nous. Marchez par l'Esprit, verset 16. Verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit. Mais entre les deux, à la fin ici, il y a cette comparaison. Et on peut conclure un peu en voyant cette distinction avec la fin dans chapitre 6. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Donc, il fait une comparaison. « Les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire en conduite, en pureté, débauche. » Ah, c'est évident. Donc, ça fait partie de la chair. On accepte, on voit cela. Idolâtrie, magie, ça peut être un peu dans le contexte de la doctrine. Et après, il dit à la fin, des ivronneries, orgies et choses semblables. Mais remarquons au milieu, et ça c'est tout à fait dans le contexte de ce passage dans Galates, il dit hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie. Il n'a pas quitté le sujet quand il parle des œuvres de la chair. Ça fait partie de la chair si on continue dans ce sens-là. Et quel est le contraste? Vous le connaissez. On parle de cela comme le fruit de l'esprit. Et ça, c'est la solution, de vivre par l'esprit. Quand il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout cela fait partie de comment nous vivons par l'Esprit. Et dans cela, il n'y a pas de place pour la division. Il n'y a pas de place non plus pour un autre évangile. Alors il dit, verset 24, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, je saute un peu, mais on termine dans chapitre 6, où Paul revient avec le thème qui est essentiel pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Verset 14 de chapitre 6. Quant à moi, certainement, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile. L'Évangile qui implique le moment quand on reçoit l'Esprit après le pardon de péché. Et verset 15, le message. Hein? Car ce qui compte, important, hein? Vous êtes avec moi ici, avec Paul. Ce qui compte, ce n'est pas toute cette discussion concernant l'ancienne alliance, la circoncision, tout cela. Ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qu'il y a qui compte? C'est d'être une nouvelle créature. Né de nouveau. Pour marcher dans la nouveauté de vie. Et lors de notre baptême, ressuscité avec Christ, on devient un créateur nouvel. Et Paul dit, à la fin de toute cette discussion, c'est cela qui compte, que nous respectons, que nous obéissons, que nous suivons l'Évangile authentique. On ne laisse pas la place à un autre Évangile, qui est un autre Évangile. Donc, Paul a donné de la peine de nous donner cette conversation avec les Galates. Verset 17, « Du reste, que personne ne me fasse de la peine. » Et il dit, « Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Physiquement, peut-être il y avait des cicatrices de ces persécutions, mais je crois plutôt parce que lui, il est mort avec Christ. Il a dit, j'étais crucifié avec Christ. Et il termine, et nous pouvons aussi simplement, frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.